Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Le débat qui vient de se rouvrir à l'Assemblée nationale autour du pass vaccinal promet évidemment de nouvelles joutes, même si on lui fera probablement pas deux fois le fameux coup du rideau à la majorité macronienne. On vous expliquera ça dans un instant. Mais cet exercice nous parle d'autre chose que de simples joutes parlementaires. Elle parle aussi d'une période, la présidentielle, donc d'un débat démocratique qui risque fort d'être phagocyté par l'actualité sanitaire. Elle parle d'un débat démocratique enseveli où les oppositions n'émergent que dans ces épisodes assez peu reluisants. Le virus et l'omniprésence du variant Omicron qui accapare tous les débats de la rentrée a aussi un impact sur l'organisation de cette campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a décidé de ne rien changer pour l'instant, mais Marine Le Pen a repoussé son grand meeting de rentrée. Valérie Pécresse doit se résoudre à respecter les jauges. Un meeting, on le sait, ne prêche que des convaincus, mais l'image d'une foule derrière un homme ou une femme, cela peut avoir un sens, quel que soit le résultat à la fin. On se souvient que c'est au Bourget que François Hollande a envoyé le « Mon ennemi, c'est la finance », ou on se souvient des images de Ségolène Royal à Charletti, de Nicolas Sarkozy à Toulouse, qui cite Jean Jaurès 27 fois, d'Emmanuel Macron et son projet en 2016, porte de Versailles. A priori, il n'y aura donc rien de tout ça. Si seule la télécompte et les réseaux sociaux, qui y gagnent, ne pas voir d'images de castagne, mais favoriser la télécom maîtrise, ça en favorise certains, suivez mon regard. Est-ce que ça défavorise les autres de ne faire que de petits meetings? Est-ce que ça peut entraîner d'autres types d'électeurs? Bref, drôle de campagne. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Gilles. Vous êtes à Lyon. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, moi, je vais pas me positionner au niveau des meetings parce que, comme vous l'avez dit en préambule, les meetings, à 90%, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Donc, sauf exception, où vous avez des personnes qui font tous les meetings pour écouter chaque parti, ça doit être rarissime. Par contre, la mobilisation, on peut se rendre compte pour les élections municipales qui ne sont pas les présidentielles. Les personnes qui ont eu peur de sortir, ben forcément, elles n'ont pas été votées. Celles qui s'en foutent parce qu'elles savent qu'il n'y a rien qui va changer, elles vont pas voter, donc qui c'est qui va voter? C'est vraiment les gens qui seront mobilisés et aujourd'hui, personne ne peut le dire. Et donc, il y a une très grande incertitude sur le virus, comment il va être combattu, de quelle façon, est-ce que la situation économique va s'améliorer, donc ça fait beaucoup d'incertitudes, et qui sait qui peut prédire aujourd'hui comment ça va se passer. Je pense que on peut faire des projections, mais c'est que des projections.
Alors on va essayer de pas prédire, en effet, loin de nous cette idée. En effet, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui risque de se passer, notamment au niveau du virus au mois d'avril? On est loin. Pour répondre à vos interrogations, à vos réflexions, Gilles, discuter ensemble jusqu'à 20h. Mathieu Gallard est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études chez Ipsos. Bruno Cotresse est là également, bonsoir Monsieur Cotresse.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, associé au CVIP of Sciences Po, et puis Yael Gauze, chef du service politique de France Inter, bien sûr. Bonsoir à vous.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Yael. Alors il y a deux choses dans ce que nous dit Gilles. D'abord, je vais vous poser la question à tous les deux. Bruno Cotresse, d'abord peut-être, en effet, un meeting, ça sert à prêcher des convaincus. Donc, en soi, pas grand-chose, on va y mettre des guillemets. Est-ce qu'on se trompe, en fait? Est-ce qu'il y a une vraie valeur symbolique du meeting en période de campagne présidentielle?
Bien évidemment, il y a une valeur symbolique du meeting. Ça produit des images, le meeting. Mmh. Et vous le rappeliez tout à l'heure, on se rappelle tous d'images extrêmement fortes qui ont marqué les campagnes présidentielles précédentes, un certain nombre de candidats. Et évidemment, c'est ça la fonction même essentielle, je dirais, d'un meeting, c'est de mettre en scène le candidat et de le mettre en scène comme celui qui est porté par une vague, comme celui qui entraîne, qui va impulser, qui a des gens qui le suivent. Mmh. Et donc évidemment, de ce point de vue-là, des meetings avec pas beaucoup de participants, une jauge, ou alors pas de meeting du tout, ça va bien évidemment changer la scénographie, la dramatisation de l'élection présidentielle et de sa campagne, qui est un élément très important. C'est une élection qui est une élection à forte composante de personnalité. Ce sont des personnes, les candidats, et au cours de la campagne électorale, les électeurs aiment bien découvrir qui ils sont lorsqu'ils sont devant leur public sur la scène.
Est-ce qu'on y perd quelque chose, selon vous, Mathieu Gallard? Parce que ce que ça veut dire, c'est que la campagne va se faire soit dans des endroits plus réduits, au moment où on se parle, hein, d'ailleurs, soit elle va se faire à la télévision. On ne parle pas du tout de la même chose.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Il faut se demander à quoi sert un débat, un meeting, pardon, en période de campagne électorale. Il y a évidemment un usage interne, c'est-à-dire à la direction des militants pour vraiment les convaincre d'aller faire campagne. Et d'ailleurs, on verra si, si selon la situation sanitaire, ils pourront faire du porte-à-porte, aller sur les marchés, etc.
Ça sert à passer à la télé, hein, les meetings.
Aussi,
en fait.
Évidemment. Le deuxième usage, il est à direction des électeurs, un usage de communication. Mais c'est quand même un format qui est extrêmement contrôlé par le candidat. Que ce soit le public qui a priori est acquis au candidat, que ce soit les intervenants, les autres intervenants, les autres dirigeants politiques qui s'expriment, que ce soit la scénographie, tout est extrêmement contrôlé. Donc a priori, que ce soit sur le programme, sur la personnalité du candidat, on ne va pas y apprendre grand-chose, il ne va pas y avoir énormément de surprises. Et plus largement, si on s'interroge sur l'importance d'un meeting en période de campagne électorale, on a entendu beaucoup de responsables politiques qui vraiment étaient vent debout contre leur possible interdiction, enfin en tout cas leur empêchement vu les jauges. Voilà, il faut décentrer un peu le regard et on s'aperçoit que dans certains pays, il n'y a quasiment pas de meeting. Donc ça n'est, par exemple, en Allemagne, il n'y a quasiment pas de meeting dans une campagne électorale, donc ça n'est pas forcément indispensable. Et puis le dernier point, c'est qu'il peut y avoir d'autres possibilités pour organiser un meeting. Je pense au meeting en extérieur. Si on se réfère à la campagne américaine, par exemple, en 2020, qui était évidemment organisée durant une période très critique du point de vue sanitaire, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden ont organisé de nombreux meetings à l'extérieur, dans des conditions météo, qui étaient sans doute encore plus difficile que celle en France en janvier, février ou
alors,
mars.
Alors, j'ai pas oublié qu'il y avait une autre partie dans la question de notre auditeur, mais Yael Gauss, qu'est-ce que vous dites, campagne empêchée ou campagne différente, quel est le mot que vous employez, que vous voudriez employer?
Campagne différente, juste pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est vrai que François Hollande lui-même a fait du plein air, énormément de meetings en plein air, c'était ces fameuses déambulations suivies de meetings en plein air en 2012, il y avait absolument aucun virus à l'époque, c'était une autre manière de concevoir le meeting. Le meeting, c'est un écosystème médiatique aussi. C'est-à-dire que c'était une tradition française en perdition qui est revenue à la naissance, à la faveur de BFM Télé, il y a plus de 10 ans maintenant. C'est à ce moment-là que on a redécouvert l'intérêt même en termes d'audience. C'est-à-dire pour un homme politique, vous faites une toute petite audience de chaîne info à 80 000 téléspectateurs, ben c'est quand même le Stade de France que vous vous offrez à domicile. Donc c'est une campagne différente, mais on voit à quel point ça crispe. Je pense à Jean-Luc Mélenchon qui tient absolument, absolument à garder le fil de sa campagne et qui va déployer ses hologrammes à nouveau, 6 ou 7 lors du prochain meeting de Nantes le 16 janvier. On voit que pour lui, là, c'est un, comment dire, l'une des palette fondamentale de sa stature de candidat qui est en jeu derrière le meeting.
Et ce qu'on voit, Bruno Cotterêts, et qui est intéressant, c'est est-ce que je suis les règles ou est-ce que je ne les suis pas? Donc, et c'est d'ailleurs exactement le même genre de dilemme pour certains qui s'est produit à l'Assemblée nationale précisément hier soir. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis mon opposition à Emmanuel Macron? Donc, je fais quand même le meeting ou alors à l'Assemblée nationale je vote contre, ou est-ce que c'est plutôt le côté sanitaire que je vais suivre? Donc oui, je dis d'accord pour les jauges, et même d'ailleurs lors d'un vote, je vote avec la majorité. Donc est-ce que au fond, ce virus n'est pas en train de tout fausser, chacun des gonds des portes en fait?
Vous voulez parler de Marine Le Pen, Fabienne, peut-être?
Par exemple,
Marine Le Pen qui reporte de 3 semaines. Ça, c'était très inattendu. Hein.
Marine Le Pen reporte de 3 semaines, mais à l'Assemblée nationale, les troupes de Valérie Pécresse ne votent pas le pass vaccinal, alors que elle-même dit qu'elle vote le pass vaccinal. Donc la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point il ne reste plus que ça. Que ça fausse les gonds des portes de cette campagne, Bruno Cotterêts.
C'est sûr, oui, c'est sûr que c'est en train, effectivement, de faire prendre à la campagne une nouvelle direction. Au fond, à l'automne, la campagne semblait se structurer autour des questions régaliennes, l'identité, l'immigration, la sécurité. Et puis on voit maintenant que depuis 3 ou 4 semaines, c'est le virus qui phagocyte tout, qui vampirise littéralement cette campagne. Donc on voit qu'effectivement, c'est en train de donner le tempo à cette campagne. Alors, sur la question que vous posez, on voit qu'il y a une véritable bataille de symboles qui est derrière, effectivement, ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en avant chez certains. On veut mettre en avant un principe de responsabilité qui renvoie une image qu'on est prêt à gouverner, qu'on a le sens des responsabilités, que le sanitaire passe d'abord, et puis ceux qui renvoient l'image de la conviction, c'est-à-dire eux, ils veulent convaincre, et ils ne sont pas dans la logique forcément sanitaire en premier, voire ils renvoient une image qui est pour certains que peut-être on veut estomper la campagne avec les questions sanitaires. Et vous savez que depuis 2017, subsiste dans une partie de l'électorat cette idée qui est qu'il y a eu un détournement au fond en 2017. Certains disent, eh bien, Emmanuel Macron a bénéficié d'un contexte très particulier. Et donc, sans aucun doute, cette petite musique va revenir progressivement dans le jeu de la campagne.
Est-ce qu'on parle d'une crainte de procès en légitimité, Mathieu Gallard, quel que soit le résultat au fond, précisément parce que cette campagne ne s'est pas faite dans les bonnes conditions?
Bon, il faudra, comme vous le disiez en introduction, de toute façon voir où on en est en mars-avril, mais voilà, si effectivement cette crise sanitaire dure, ça peut effectivement venir entacher la légitimité des résultats. Cela étant, pour l'instant, on a le sentiment que cette crise sanitaire bénéficie à Emmanuel Macron. Il est de toute façon extrêmement stable dans les intentions de vote, en tête, il a une popularité qui n'est pas énorme, mais qui en tout cas est bien supérieure à celle de ses prédécesseurs, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, au même moment de leur mandat. Voilà, le premier tour est dans 100 jours. 100 jours, c'est à la fois très court et en même temps très long. On peut se demander si cette crise, si cette cinquième vague est vraiment très forte, sature les hôpitaux, s'il finit par y avoir de nombreux décès même. Est-ce que les Français ne vont pas finalement un petit peu saturer au bout d'une crise extrêmement longue, et donc ça peut quand même venir brouiller ce scénario qui semblait extrêmement bien écrit avec un Emmanuel Macron favori qui en plus devait affronter la droite radicale, que ça soit Zemmour ou Le Pen, alors que en plus Valérie Pécresse entre dans le jeu désormais.
Et c'est fou, mais moi ce que vous allez m'arrêter si je me trompe, Yael, mais j'ai l'impression qu'il y a désormais que le débat de la rentrée effectivement s'est refocalisé intégralement sur ce variant. Non seulement le reste disparaît, mais il y a des candidats qui n'existent absolument pas dans ce débat. En fait, ils sont finalement un mouchoir à exister dans ce débat, à faire exister ce débat. Et c'est pour ça que je faisais le lien et la comparaison entre à la fois la campagne empêchée dans les meetings et ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que c'est vraiment cette démonstration-là, en fait.
Oui, et vous avez des candidats qui essaient de remettre l'hôpital au cœur de leur rentrée de janvier, justement pour revenir dans les sujets concernant du moment. Je pense à Nidalgo qui est à l'hôpital Bichat cet après-midi. Je pense à Fabien Roussel qui va y aller aussi prochainement. Il y a l'idée de recoller finalement à l'ambiance du pays en ce moment pour exister et ne pas totalement sortir des radars. C'est extrêmement compliqué en ce moment et paradoxal pour Yannick Jadot qui porte le sujet majeur, l'une des angoisses, l'angoisse climatique dont on a tous conscience aujourd'hui, mais qui a du mal à exister dans cette campagne. Et vous avez vu comment Emmanuel Macron, dans ses vœux du 31 décembre, a très tactiquement cherché à faire son bilan climatique qu'il n'avait pas fait avant décembre pour montrer qu'il était présent sur ces sujets. Mais effectivement, vous avez aujourd'hui, dans cette première semaine de campagne, en tout cas de janvier, à J-96, 97 jours avant le premier tour, écoutez, une disparition de certains sujets de campagne. Mais ça peut revenir à tout moment. Je pense à la polémique du drapeau sous l'Arc de Triomphe. Celle-là, personne ne l'avait anticipée.
Oui, c'est vrai.
Il a suffi de cette image du drapeau pour, en quelques heures, mettre en branle les équipes Zemmour, Le Pen, puis Pécresse, pour dire « Regardez, un traître à la patrie a mis un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. » Évidemment, on sent que là, derrière ça, c'est une impatience, une fébrilité à entrer dans la joute politicienne de la campagne et à se sortir vite du Covid.
Et que là, pour le coup, le Covid, en effet, empêche. Bruno Cotresse, tout à l'heure, notre auditeur, il faisait le parallèle avec les élections municipales. Alors, on est en mars 2020, le contexte épidémiologique n'a absolument rien à voir avec mars 2020. On est dans une élection, certes municipale, une élection nationale, mais enfin, on n'est pas dans une présidentielle. Est-ce qu'on l'a fait, cette comparaison, ou est-ce qu'on s'en garde?
Ce qui est certain, c'est que notre auditeur parlait de problèmes de mobilisation politique et que ce sont des problèmes qui ne se posent pas que depuis la crise Covid. On a vu l'abstention à pratiquement tous les niveaux d'élection en France augmenter. Rappelons-nous quand même qu'au premier tour de la présidentielle de 2017, on est à 77,7 ou 8% de participation, un tout petit cran en dessous. Et puis aux élections législatives qui suivent, on a l'abstention qui est majoritaire. On a 50% de participation aux européennes. C'est bien parce qu'on a eu un rebond de participation et pour arriver à 50%, 5%, et ensuite l'enchaînement municipal, départemental, régional. Mmh. Donc on voit qu'on a une problématique beaucoup plus structurelle de mobilisation, et la mobilisation politique, ça repose sur des ressorts qui sont beaucoup plus importants que le simple fait du vote électronique, du vote par correspondance, etc. C'est vraiment des problèmes à ce moment-là de motivation des électeurs pour le système politique.
On est d'accord, Mathieu Gaillard, que s'il y a une grosse abstention, le Covid aura bon dos, en quelque sorte.
Oui, effectivement, au moment des municipales, le premier tour des municipales notamment, il y avait eu une abstention record pour ce type de scrutin, et incontestablement, c'était en grande partie lié à la crainte vis-à-vis de la situation sanitaire, d'autant plus qu'on avait extrêmement peu d'informations à l'époque. Donc ce qu'on voyait dans nos enquêtes, notamment lors des élections régionales et départementales de juin dernier, c'est que la situation sanitaire avait joué dans ce qui était aussi un niveau d'abstention historique, mais néanmoins qu'il y avait quand même d'autres dimensions plus structurantes qui jouaient là aussi. La défiance vis-à-vis des élus et des institutions régionales et départementales, et surtout le sentiment finalement que ce type d'élection n'allait pas avoir d'impact sur sa vie personnelle. Mmh. Une élection présidentielle, c'est quand même relativement différent. Pour les Français, et sans doute à juste titre, ils ont le sentiment que c'est là que les choses se jouent. Et donc, c'est plus mobilisateur. Il faudra quand même voir, effectivement, si on sera plutôt, comme le disait Bruno Cotterêts, autour des 80% de participation qu'on enregistre traditionnellement, ou quand même significativement plus bas, ce qui voudrait dire que la situation sanitaire joue, mais aussi peut-être que le ras-le-bol vis-à-vis de la politique joue aussi et qu'on atteint un niveau supplémentaire.
C'est une question pour vous, Yael Gauze, que celle de Stéphanie, parce que ça rejoint la discussion qu'on a eu, figurez-vous, vous et moi, cet après-midi. Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais simplement réagir. En entendant qu'il y avait eu une opposition au niveau de l'Assemblée nationale par rapport au pass vaccinal hier soir, il me semble, je trouvais ça vraiment bien qu'enfin il y ait un contre-pouvoir et que les députés se mobilisent au niveau de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent agir, parce que le gouvernement actuel, alors sous prétexte d'urgence sanitaire qui n'est plus une urgence, balaye toutes les instances démocratiques, mène sa campagne vaccinale, et tout ce qui s'oppose à cette campagne est vraiment vraiment étiqueté de complotisme. Enfin, tous les scientifiques qui s'opposent et qui émettent un avis contraire sont vraiment démontés au niveau médiatique. Donc je trouvais dommage que cette opposition puisse passer pour de la campagne électorale, enfin que ça devienne un débat purement électoral, alors qu'en fait il s'agit de contrer quand même une campagne vaccinale qui aujourd'hui, au vu des résultats de la vaccination en Israël, ils en sont à la quatrième dose le virologue
tout le monde n'est pas à la quatrième, enfin peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Est déjà à la troisième, ça veut bien dire que ça ne marche pas quelque part, on n'est pas protégé, on est toujours dans les mêmes contraintes, il y a quelque part à un moment, il faut peut-être remettre en question. Alors, et je trouvais ça bien, que l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, les choses bougent.
Alors, je ne voudrais pas vous contredire, Stéphanie, mais oui, des choses ont bougé à l'Assemblée nationale, et on va en parler parce que c'était intéressant de ce point de vue-là. Ça n'est pas autour de l'efficacité du vaccin que les choses ont bougé à l'Assemblée nationale, mais bien autour d'un pass vaccinal ou pas un pass vaccinal. Mais ce que dit Stéphanie sur le débat démocratique, ça, pour le coup, ça a un vrai sens, Yael.
Oui, parce que vous avez deux manières de lire ce qui s'est passé, l'incident de minuit hier soir. Soit c'est le réveil quelque part de parlementaires qui ont encore conscience des outils du Parlement pour faire obstruction au gouvernement, mais alors pour gagner quoi? Quelques heures, parce que en réalité, dans 24 ou 48 heures, tout aura repris son cours. Normalement, demain soir, le texte sera adopté et suivra sa route au Sénat, commission mixte paritaire, puis vote final à l'Assemblée. Mais effectivement, vous avez là, quelque part symboliquement, ce qui s'est passé. Les oppositions s'en sont félicitées. Peu importe d'ailleurs qu'elle soit pour ou contre le vaccin, c'est ça qui est assez particulier. Vous aviez des insoumis, des LR, des proches de Dupont-Aignan un peu bras dessous, c'est assez paradoxal, juste pour se féliciter d'avoir mis en difficulté le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parce qu'il y a une fatigue démocratique par rapport au Conseil de défense sanitaire, à la verticalité du pouvoir, des décisions alors même que le Parlement est consulté, hein, pour la 12e fois. C'est un gouvernement qui va aussi mal calibrer son planning. Vous ne pouvez pas, au rythme de 20 amendements traités par heure, arriver en une nuit au bout des 550 amendements qu'il restait à examiner sur ce pass vaccinal. Donc là, il y avait peut-être un péché du bris aussi du côté d'un gouvernement pressé de mettre en place son pass vaccinal. Et puis la question des libertés, c'est ça la constante, moi je dirais, je retiendrai ça, la question de la liberté qui à chaque fois fait réfléchir, tiraille les parlementaires. Vous avez aussi des marcheurs qui doutent sur le fait de quelle durée pour ces restrictions. Et puis, régulièrement, des votes serrés. Le pass sanitaire était passé à une voix près à l'automne.
Et Bruno Cotterêts, en écoutant Yaël, je me dis que ce débat, effectivement, il est éminemment politique, en effet, mais il reste aussi quand même éminemment électoral dans le contexte où nous sommes, de se positionner lorsqu'on est, en l'occurrence là, c'est notamment à Jean-Luc Mélenchon ou d'autres au moment de l'Assemblée nationale.
Oui, bien évidemment, on peut pas ignorer qu'on est dans une période électorale et qu'il s'agit pour chacune des forces politiques de montrer qu'elle est celle qui est le plus à l'écoute des préoccupations, des inquiétudes des Français, bien évidemment. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'était assez symbolique, même s'il y a effectivement depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, il y a constamment cette bataille autour de l'idée que l'exécutif décide de tout seul, de manière trop verticale, que le Parlement n'est pas assez associé ou consulté, alors qu'il y a des votes effectivement au Parlement. Et on voit, et c'était très bien expliqué d'ailleurs par notre auditrice, on voit très bien que cette question de la vaccination, du pass sanitaire, du pass vaccinal, on voit qu'elle fait écho à tout un tas d'autres préoccupations qui, pour le coup, alors là, sont très politiques, effectivement. Le sentiment de justice et d'équité dans la société, le sentiment de respect de la liberté individuelle. Mais alors, nous, on l'a étudié dans nos enquêtes au CEVIPOF et on a vu à quel point c'était profondément ancré dans tout ce qui concerne le sentiment d'une société injuste, d'une méritocratie qui ne fonctionne pas bien en France. Et c'est vrai que chez ceux qui ont le sentiment à la fois que la société française est assez injuste et que le modèle démocratique ne fonctionne pas bien, on voit que l'opposition à toutes les mesures de restrictions sanitaires a une dimension très fortement politique, au sens peut-être le plus noble du terme. Ça, c'est pas forcément partisan, mais c'est des vraies questions politiques.
Mathieu Gallard là-dessus, et on retourne au standard.
Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a ce sentiment qu'il y a une sorte de, enfin, on a eu ce sentiment qu'il y avait une sorte de crise démocratique pendant le début de cette crise sanitaire, avec effectivement un président de la République qui décidait, et ensuite un parlement qui votait, mais qui était un petit peu réduit au rôle de chambre d'enregistrement. On voit que les choses évoluent, et c'est vrai qu'on peut faire un raccord avec une autre crise du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est les Gilets jaunes, qui était certes avant tout une crise sociale, mais qui avait aussi comme fondement le sentiment que la démocratie ne fonctionnait pas. On le voyait avec un certain nombre d'évolutions du système démocratique que demandaient les Gilets jaunes. Et c'est vrai que pour l'instant, on a le sentiment que cette question du fonctionnement de la démocratie française n'est pas vraiment un des sujets de la campagne électorale. Mais elle mériterait sans doute de l'être.
Mais de fait, elle l'était hier, en tout cas dans cette espèce de double balance. Question rapide, réponse rapide, je pense. La question est celle de Charlie. Bonsoir Charlie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais faire part de mon étonnement. Là, j'ai bien entendu le début du débat, de la discussion. Cette élection serait vampirisée par cette pandémie. Et je m'étonne qu'aucun candidat, d'autant plus que leurs meetings sont menacés de pas pouvoir, pas pour être réalisé. Pourquoi il n'y a pas une proposition de report de l'élection de quelques mois, le temps que la sixième vague soit, ou la, je sais plus la combien de sixième,
moi non plus,
vague
mais passe. Moi aussi je suis comme vous, je dirais six, mais on n'est pas sûr.
Pourquoi on temporise pas un petit peu, d'autant plus que là il y a un contexte hyper suspicieux. Donc, je ne sais pas. Enfin, pourquoi ça, aucune proposition dans ce sens-là n'est bonne.
Merci beaucoup, Charlie Yelgoz, qui lève très sagement le doigt.
Oui. Très sage. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va rencontrer très prochainement Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Très vite, peut-être d'ici la fin de la semaine, vous allez avoir Matignon, Jean Castex, qui va réunir les partis politiques, les candidats, toutes les forces engagées dans cette campagne 2022, pour essayer de discuter, d'harmoniser comment on fait, comment on se met d'accord. Mais pas sur les dates.
Mais non, parce que c'est interdit.
Parce que c'est constitutionnel, c'est en réalité. Donc là, pour changer les dates, c'est impossible pour une raison simple. Vous avez, alors c'est un nombre de jours très précis. Les 10 et 24 avril ont été choisis parce que sinon, on tombait dans des dates de pont, des dates de 1er ou de 8 mai. Et ça, c'est encore plus antidémocratique, si vous voulez, parce que vous avez des syndicats qui défilent en même temps, et puis des gens qui sont peut-être pas chez eux au moment du vote. Enfin bref, c'est un grand bazar. Et si on déportait courant mai, plus tard en mai, alors là, on est anticonstitutionnel, parce qu'Emmanuel Macron aurait vu ses 5 ans pile expirer. Et là, il n'aurait pas le droit de rester président.
J'ai vu Catherine apparaître, puis disparaître et réapparaître, donc j'en profite. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Alors, je vais faire au mieux, au plus vite. Alors d'abord, j'ai 2 vœux à faire, donc je vais les faire. Mais avant, je voudrais dire que par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée, j'ai été assez choquée aujourd'hui d'entendre sur France Inter des ministres de la majorité regarder d'un regard très infantilisant les dissidents, entre guillemets, et comme s'ils leur disaient « mais vous n'êtes pas sages du tout, on vous a dit qu'on avait raison, il faut obéir ». Et voilà, ça m'a quand même vraiment choquée parce que je me suis dit qu'on était en 2022 et qu'un vrai débat démocratique, ça se passait pas comme ça. Donc déjà, j'avais envie de dire ça.
Et ensuite, c'est fait.
Voilà, merci de m'en donner l'occasion. Et ensuite, les 2 vœux que j'ai envie de faire par rapport aux élections. Le premier, c'est j'espère que les candidats, les politiciens vont faire autrement que de nous faire un show sur la voix, les mots employés, comme si on était au tout début de la République, et qu'il y aura un peu plus de contenu de leur part sur leurs valeurs, la façon dont ils voient leur société, pourquoi ils font de la politique quelque part, qui nous donne un petit peu de choses à sentir. En tous les cas, j'espère que ça ne sera pas la voix très forte et des formules toutes faites et un rappel à l'histoire il y a bien longtemps, et que ça va changer. Là, j'adorerais être surprise. Voilà.
Bon, écoutez, on vous le souhaite, Catherine. J'allais vous demander, Bruno Cotterêts, je vous poserai aussi la même question, Mathieu Gallard, dans un instant. Est-ce qu'on est parti pour
L'élection présidentielle a une incroyable capacité à provoquer chez nos candidats et nos candidates, effectivement, un certain lyrisme politique. C'est presque consubstantiel à l'élection présidentielle. Donc, je n'imagine pas qu'on verra à la fin de ces grandes envolées lyriques.
Ah ben on a perdu Bruno Cotterêts, on va le récupérer dans un instant. Mathieu Gallard, du coup, est-ce qu'on est parti pour, selon vous, d'une campagne qui serait différente? Honnêtement, c'est pas tellement ce qu'on a vu quand elle a démarré il y a quelques semaines de ça.
Oui, non, je pense que c'est là où vous voulez en venir, Bruno Cotterêts, et j'abonde dans son sens. Enfin, on est sur une campagne qui, que ça soit sur les thèmes ou sur la façon dont elle va être menée par les candidats, n'est pas extrêmement différente de ce qu'on avait dans le passé. Alors certes, les candidats vont malgré tout essayer, en tout cas, de présenter leur vision du pays et surtout leur vision de l'avenir qu'ils souhaitent impulser au pays. Néanmoins, c'est vrai que est-ce que la campagne et sa médiatisation va se faire sur les enjeux précis, sur les solutions précises? J'en suis pas absolument certain, mais voilà, on verra, l'avenir nous le dira.
Bruno Cotterêts, vous êtes revenu, pardon, vous avez été très violemment coupé, on vous écoute.
Oui, j'abonde dans le même sens que Mathieu Gallard. En fait, effectivement, on verra sans aucun doute à nouveau beaucoup de contenu en termes de valeurs. Au fond, si vous reprenez les discours dans lesquels les candidats se sont déclarés, quels que soient les candidats, le jour où ils vont déclarer, c'est très chargé en symboles, en valeurs. Ils disent dans quelle France ils veulent que les Français vivent dans quelques années. Ils nous propose un certain nombre vraiment de thèmes qui sont très riches en contenu symbolique. Hein. Mais alors c'est vrai que par contre, on est très éloigné la plupart du temps de propositions, de politiques publiques, chiffrées, datées, avec un calendrier, etc. Alors ça existe très souvent dans les programmes, mais c'est vrai que même les programmes aujourd'hui sont souvent des programmes qui sont beaucoup plus sur des questions de grandes orientations.
Yael. Oui, juste une remarque, moi je suis curieux de voir, parce que cette campagne elle a une particularité 2022 par rapport à toutes les autres sous la 5e, c'est la place des femmes, des candidates dans cette campagne, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Christiane Taubira si elle va au bout, Sandrine Rousseau qui est quand même très engagée auprès de Yannick Jadot mais qui aimerait élargir Le Pen et la gauche plus large, Hélène Touy pour les animalistes. Je crois que là, il y a le parti animaliste a une candidate, on l'oublie souvent, mais oui, bref, absolument. Peu importe. Tout ça pour vous dire, je ne sais pas à quel point cela change aussi la physionomie dans la manière de vouloir s'adresser, de vouloir débattre, de vouloir mettre certains sujets sur la table. La virilité n'est pas l'apanage des hommes, dans la manière de faire de la politique et d'être brutal, ça n'a rien à voir avec le genre. Mais je suis curieux de voir la tonalité que ça va donner quand on sera sorti du Covid, pas avant, mais quand il y aura enfin cette campagne normalisée avec ces figures-là un peu nouvelles.
Voici une question d'Isaac qui est à Saint-Gaudens. Bonsoir Isaac.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je suis toujours interpellé par les analyses en dépit de leur qualité sur les estimations de vote, notamment comment la campagne est analysée au regard des chiffres d'Emmanuel Macron, alors que finalement, si on regarde il y a 5 ans, à la même époque, il avait plus de 30% d'intention de vote. Et je suis toujours interpellé par le fait que les sondages interrogent des personnes en métropole et pas dans les dom-tom, alors qu'on sait que la population des dom-tom ne votera pas, notamment un vote d'extrême droite. Voilà. Est-ce que vos analyses ne sont pas tout simplement erronées au regard des analyses qui avaient été faites il y a 5 ans à la même période?
C'est pour vous ça, Mathieu Gallard, le directeur d'études chez Ipsos?
Oui, non mais un sondage d'intention de vote qu'on réalise aujourd'hui, il n'a pas vocation à prévoir ce qui va se passer dans 100 jours. Enfin, ouais, on en est bien incapable. Voilà, on décrit la situation telle qu'elle est actuellement, c'est tout. C'est comme si un peu vous demandiez à la météo de ce soir de vous dire ce qui va se passer le 10 avril prochain. Elle en est absolument incapable. Donc voilà, c'est un outil qui ne peut pas servir à prévoir ce qui va se passer dans le futur. Après, en ce qui concerne les dom-toms, vous avez raison. On ne peut pas, enfin, techniquement, c'est très difficile d'interroger les personnes qui vivent en Outre-mer, mais néanmoins, on essaye de le prendre en compte parce qu'on sait effectivement quelles sont les particularités du vote de ces territoires, et donc on le prend en compte ensuite dans l'établissement des intentions de vote en eux-mêmes.
Et du coup, Isaac m'interpelle, moi, Yael Gauss, peut-être que vous en souvenez, il était déjà candidat en tout début janvier, Emmanuel Macron, il y a 5 ans ou pas? Oui, il était déjà. Ça date de quand?
Du 16 novembre 2016.
Okay.
Et parce que c'est notre projet, ça c'est le 10 décembre, porte de Versailles.
Alors il y avait une question sous la question d'Isaac à l'instant, mais je vais vous la poser dans ma voix, qui demande si, dans quelle mesure la pandémie ne porte pas préjudice à ceux qui ont du mal à aller chercher leurs 500 voix, ou pas. Qui veut répondre à ça? Mathieu Gallard, non? Vous n'avez pas l'air motivé?
Non, oui.
Il y a elle non plus, pas mal.
Non, si, mais je crois pas que ça joue, parce qu'on peut quand même se déplacer, faire, vous savez que c'est des candidats qui sillonnent, qui ont envoyé des émissaires partout en France, on peut quand même aller frapper à la porte du maire et puis essayer de convaincre en disant qu'un parrainage n'est pas un soutien. C'est souvent ça, on fait la confusion entre 500 soutiens et parrainage, c'est donner la chance à quelqu'un de concourir à une compétition. C'est pas la même chose. Après, le vivier est pas extensible à l'infini. On a 41 000 à peu près élus locaux qui peuvent parrainer. La majorité, les trois quarts, ce sont des maires. Et dans ces maires, souvent, pas plus d'un sur quatre, un sur trois, a envie de mouiller la chemise et de dire je serai plus tard le 4 mars publié dans la liste par le Conseil constitutionnel comme ayant parrainé quelqu'un. Mmh. Ça veut dire que ça engage aussi sur le nom. Vous êtes maire d'une commune, on saura plus tard, le 4 mars, deadline pour pouvoir avoir ces parrainages, que vous avez aidé Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou Jean Lassalle à avoir ces parrainages. Mmh. Voilà, donc mais je crois, on n'a pas, il n'y a pas de confinement en tant que tel, donc la mobilité des émissaires qui font la tournée des mairies continue à plein régime.
On a une question, c'est celle d'Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi je me demandais pourquoi on ne développe pas le vote par correspondance. Est-ce que ça lutterait pas un peu contre l'abstention? Et surtout dans le cas d'une pandémie comme ça, s'il y a quelqu'un de positif, est-ce qu'il aura le droit d'aller voter? Tout ça, quoi. C'est surtout par rapport à la vote par correspondance. Pour moi, ce serait peut-être une solution.
Vous avez parfaitement...
Enfin, je voulais savoir qu'est-ce qui empêcherait de faire ça.
Eh ben, on va poser la question immédiatement. Vous avez partiellement répondu pour nos Cotresse tout à l'heure, d'ailleurs, vous.
Oui, en fond, le vote par correspondance a existé en France jusqu'au milieu des années 70. Il a été abrogé ensuite. On lui a préféré le vote par procuration. Et d'ailleurs, on va voir pour cette élection présidentielle, sans aucun doute, les conditions du vote par procuration être un peu assouplies. Et en particulier, est-ce qu'il faut que celui qui bénéficie de la procuration soit électeur dans la même commune? C'est sans aucun doute une règle qui va être assouplie. Il y a des démocraties qui ont expérimenté le retour au vote par correspondance pour augmenter la participation. Je pense au Royaume-Uni qu'il a expérimenté à l'époque où ils étaient dans l'Europe pour des élections européennes, et ça avait augmenté la participation lorsqu'ils l'ont fait. Mais plus généralement, c'est vrai qu'au-delà de cette élection présidentielle, il va falloir sérieusement réfléchir en France aux modalités de l'organisation du vote. Hein. Beaucoup pensent au vote électronique, alors l'algorithme qui sécurise totalement le secret du vote, l'absence totale de fraude n'est pas encore complètement stabilisée, ça arrivera un jour.
Ça arrivera un jour, Yael Gauss.
Oui. Moi, il y a de l'inertie. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'inertie en France. Le débat, il date de 2020 maintenant. Mmh. Hein. Dès les municipales, avant, la question s'est posée. Et puis, le ministère de l'Intérieur freine régulièrement. L'argument massue brandi à chaque fois étant de dire que c'est l'isoloir qui garantit la liberté de conscience. Que chez vous, par correspondance, vous êtes peut-être influencé. Et que c'est dans l'isoloir tout seul, vraiment avec votre papier, votre enveloppe, que vous avez une conscience de citoyen indépendant. Donc cet argument-là, est-ce qu'il tient encore la route, point d'interrogation. Après, il y a une différence aussi par rapport aux États-Unis. Vous connaissez ça mieux que ça que moi, Fabienne. Un seul tour aux États-Unis à la présidentielle. Nous, deux tours.
Mais beaucoup plus de votes, en revanche,
oui,
en même temps.
Mais deux tours, mais est-ce que la Poste est capable aujourd'hui d'assurer, de stocker les résultats du premier tour qu'on met en frigo quelque part pour le premier tour, et après comment on fait dans l'entre-deux tours? Voilà, il y a une question qui se pose, la logistique qui n'est pas réglée côté français.
Mathieu Gallard, cette question elle revient à chaque fois qu'on fait une émission qui touche de toute façon à la politique, mais on a un peu l'impression que le vote par correspondance ou le vote électronique ce serait l'alpha et l'oméga, et que subitement on se mettrait à avoir une participation bien plus importante. Est-ce qu'on se leurre pas un peu quand même?
Oui, moi je suis extrêmement sceptique. Alors on est dans une période de crise sanitaire, donc c'est vrai que le vote par correspondance ou le vote électronique pourrait avoir du sens pour les personnes qui ont peur de se rendre dans les bureaux de vote. Néanmoins, de manière générale, et on le voit enquête après enquête, ce qui explique l'abstention, ça n'est pas les difficultés logistiques, matérielles à aller voter. Globalement, le bureau de vote n'est pas très loin de chez soi, ce qui explique l'abstention, notamment, on en parlait tout à l'heure, aux élections locales, régionales, départementales, municipales, c'est le sentiment que ce sont des scrutins qui ne vont pas avoir beaucoup d'impact sur votre vie, qui ne vont pas changer la situation concrète dans votre commune, dans votre région. Et ça, que vous votiez au bureau de vote ou par correspondance, ça n'y changera pas grand-chose. Donc ça peut avoir un effet, mais ça aura un effet quand même extrêmement limité.
On a cette question sur franceinter.fr. Tiens, pour vous, Bruno Cotteresse, de cet internaute qui demande si le grand gagnant de l'absence de grands meetings n'est pas directement Éric Zemmour, qui est particulièrement à l'aise à la télévision par rapport à d'autres et qui a fait d'ailleurs aussi toute sa notoriété. Qu'est-ce que vous en dites?
Il a fait un meeting, le meeting de Villepinte, qui a semblé marqué pas mal quand même là, du point de vue production d'images, du point de vue de l'actualité, ça a été très marquant. Par contre, il n'y avait pas eu véritablement d'effet dans les intentions de vote pour Éric Zemmour, et je parle sous le contrôle de Mathieu Gallard, mais il me semble bien que ça correspond même au moment un peu de tassement des intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour.
Eh ben décidément.
Vous voyez pourquoi le vote électronique.
Mais attention au vote électronique, vous allez pouvoir finir la phrase peut-être, Mathieu Gallard. Je vais rajouter une mezzanine à la question de notre auditeur. Ce qu'on a vu aussi pendant le fameux meeting à Villepinte d'Éric Zemmour, c'est qu'il y avait eu beaucoup de castagnes, que les images n'ont pas été forcément favorables. Donc on se dit que la balance elle est des deux côtés un peu pour ce candidat-là.
Oui. Alors pour revenir sur ce que disait Bruno Cotteresse, effectivement, le meeting d'Éric Zemmour n'a pas eu d'effet sur ses intentions de vote, et généralement, de manière générale, il n'y a aucun meeting qui, dans l'histoire politique, n'a eu un effet vraiment majeur. Ce qui peut jouer, c'est effectivement des polémiques, c'est éventuellement les débats, mais c'est très rarement les meetings, tout simplement parce que les meetings, vous avez un candidat qui est dans un univers extrêmement contrôlé. Mmh. Alors là, effectivement, c'était un petit peu spécifique, ouais. Mais sans doute parce que autour d'Éric Zemmour, il y a une équipe qui est quand même extrêmement jeune, extrêmement, pas aguerrie. Mmh. Et donc, ça explique petit problème.
Il nous reste une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes.
On parle
pas plus,
beaucoup des innovations technologiques et numériques de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui a créé un rendez-vous Allo sur Twitch Mélenchon. Mm-hmm. Mais chez Zemmour, vous pouvez, là, l'idée de chez Zemmour, c'est de pouvoir faire une campagne sans déplacement physique. Mm-hmm. Vous avez aujourd'hui une galerie de vidéos hallucinante où le candidat a mis en ligne tout le moindre mot qu'il a pu prononcer, moteur de recherche créé, vous retrouvez la vidéo où il s'est prononcé sur tel ou tel sujet. Il appelle ça aussi le data populisme. Très inspiré de l'expérience Trump et de ce qui se passe aux États-Unis.
Est-ce qu'on est capable de dire, d'ailleurs, Mathieu Gallard, qu'est-ce que vous en dites, vous, chez Ipsos, est-ce qu'on est capable de dire, au moment où on se parle, jusqu'à quel point désormais les réseaux sociaux, quel que soit leur usage, ont une réelle influence sur le vote, pas seulement sur la mousse autour du vote, mais sur le vrai vote?
Alors, on a demandé aux Français récemment, mi-décembre, comment ils s'informaient prioritairement sur la campagne électorale, et ça reste très largement la télévision qui arrive en tête. Les réseaux sociaux, Internet de manière générale, arrivent après la télévision et après la radio aussi. Donc ça n'est pas négligeable, mais néanmoins c'est à la télé que tout se joue avant tout.
Voilà, et comme on dit à la télé, la suite au prochain épisode, à la radio aussi. D'ailleurs, nous on se retrouve demain et portez-vous bien.